Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
De Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans cette nouvelle émission, nous allons, sinon explorer, du moins vivre toute la palette des sentiments humains. Nous allons mobiliser des souvenirs heureux ou malheureux, des souvenirs de réussite, lumineux et d'échecs cuisants. Nous allons avoir des regrets, des espoirs, des peurs rétrospectives et, bien entendu, des attentes immenses. Nous aurons peut-être un peu de rancœur, mais sûrement aussi de la gratitude. Nous serons émus. Probablement un peu nostalgique aussi, et parfois en colère. Mais j'en suis sûr, nous serons toujours passionnés, car nous sommes français, et que notre émission est consacrée à l'école. Et comme vous le savez, depuis toujours, dans notre pays, l'école déchaîne les passions. Et pour évoquer ce sujet de passion, nous avons l'immense honneur et l'immense joie de recevoir dans notre studio Xavier Darcos. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
De façon un petit peu protocolaire, je pourrais vous présenter, et je vais le faire, comme membre de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, autant de qualités qui suffisent à expliquer, bien sûr, votre présence dans les studios de Canal Académie, puisque vous êtes ici, chez vous. Toutefois, c'est davantage en votre qualité d'amoureux de l'école, de l'enseignement et de la transmission que nous avons souhaité votre présence, d'autant que votre expérience en la matière est grande. Comme tout le monde, vous avez bien sûr été un écolier, un collégien, un lycéen, mais ensuite vous avez consacré, pour ainsi dire, l'essentiel de votre existence à ces missions que vous poursuivez d'ailleurs au sein de l'Académie, puisque une des missions des Académies, c'est la transmission. Mais aussi et surtout, car vous venez de signer un merveilleux dictionnaire amoureux de l'école, qui nous plonge dans ce sujet si passionné. D'ailleurs, ma première question, ça va être celle-là. Comment expliquez-vous que l'école déchaîne tant de passions dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres ?
Assurément plus que dans d'autres. Il y a trois raisons qui sont généralement sollicitées. La première qui est historique ou institutionnelle, qui fait que l'école de la République, c'est la même chose que la République. Elles commencent ensemble, elles sont fondées ensemble, par les mêmes personnes d'ailleurs. Sous la Troisième République, après 1870, même s'il s'est passé bien des choses avant, fondamentalement, l'école républicaine, libre, gratuite, obligatoire, elle commence avec la République. Et lorsqu'on se promène dans un village, quel qu'il soit, on voit la mairie, l'école, et parfois aussi un petit appendice pour permettre à l'instituteur d'être aussi juge de paix, mais l'école et la mairie vont ensemble, ils font cause commune. Il y a une histoire commune de l'école et de la République en France, ce qui n'est pas le cas évidemment dans beaucoup de pays. La deuxième raison, c'est que l'école est nationale chez nous. C'est depuis Paris, ou c'était parce que les choses évoluent, mais enfin, ça reste vrai. C'est depuis Paris que partent les directives, les organisations, avec des corps intermédiaires extrêmement nombreux, recteurs, inspecteurs généraux, inspecteurs d'académie, inspecteurs de circonscription, chefs d'établissement, directeurs d'école, professeurs et instituteurs. Toute cette immense machine pyramidale fait que l'école est vécue comme un instrument de la nation, avec plus de la moitié des fonctionnaires français qui travaillent directement ou indirectement à l'instruction publique. C'est incompréhensible dès que vous franchissez le Rhin. En Allemagne, les compétences scolaires sont des compétences des Landes, des régions, des Länder, des régions. Et il n'y a pas de ministre de l'éducation nationale allemand, comme il n'y a pas de ministre de l'éducation nationale aux États-Unis, ni même en Angleterre d'ailleurs. Donc c'est vraiment une spécificité. Donc l'histoire, l'unité nationale, l'unité organisationnelle. Et puis la troisième, vous l'avez dit, c'est la troisième raison, c'est que tout le monde, au fond, a été et sera concerné par l'école. Et c'est un sujet qui alimente toujours des conversations, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs dans tout ça. Lorsque vos enfants sont à l'école, vous en souciez, vous avez des souvenirs, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre excellente présentation. Et donc, il y a quelque chose d'affectif dans cette passion, qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a 65 millions de spécialistes à l'école en France, que tout le monde a quelque chose à en dire, et que ça alimente beaucoup de débats.
Ça, voilà. C'est une bonne chose que tout le monde se sente spécialiste de l'école, non ?
Oui, mais en même temps, ça crée beaucoup de tensions. Donc voilà, l'histoire... l'organisation nationale et publique et le rôle affectif, je dirais, du monde scolaire expliquent que le sujet est pratiquement récurrent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas quelques polémiques scolaires. Et puis, il faut ajouter que depuis quelques années, il y a des problèmes nouveaux qui se sont greffés sur ces trois grands piliers de la préoccupation nationale pour son école. Qui sont les questions de communauté, les questions de différence de destin selon les origines et les milieux, les violences à l'école, que sais-je, des sujets qui sont des sujets de société qui viennent heurter l'école.
Est-ce qu'on ne demande pas trop à l'école, finalement ? On a le sentiment qu'elle est placée quand même au cœur de nombreuses tensions qui traversent la société française. À travers votre exposé historique, on sent que, par exemple, le projet national français est à la fois d'héritage et donc de transmission, mais est aussi un projet. L'école, finalement, elle est déjà, par nature, au cœur de cette tension-là. Et comme vous l'avez dit, il y en a d'autres qui se raccrochent, comme peut-être notre passion pour l'égalité. Finalement, est-ce qu'on n'en demande pas trop à cette malheureuse école ?
Oui, je pense que vous avez raison, hein, que votre formule est la bonne. On en demande trop, et on en demande trop à un système, à un dispositif, dont vous dites très justement qu'il est à la fois entièrement tourné vers le passé, puisque c'est par lui que l'héritage se transmet, et entièrement tourné vers le futur, puisque tout cet héritage n'a d'autre but que de former les générations de demain. Donc, entre les deux, l'école est à la fois porteuse de passé et inventeuse d'avenir. Elle est dans cette tension permanente, et on la regarde en lui disant « Attention, il ne faut pas que tu penches trop du côté du passé, parce que sinon tu seras réactionnaire, tu seras traditionnel, tu ne formeras pas les jeunes de demain. Il ne faut pas non plus que tu sois complètement basculé dans le futur, sinon tu vas leur faire plus de l'informatique ou jouer à des tablettes, et tu ne seras pas capable de former des esprits cultivés. » Donc, l'école est dans cet entre-deux permanent, dans cette situation médiane, et du coup, on lui demande tout. Dès qu'il y a une question de difficulté quelconque qui se présente, on demande à l'école de s'en charger. On lui demande d'autant plus que, depuis maintenant une trentaine d'années, les autres structures sociales, les autres liens sociaux se sont beaucoup défaits. La famille, pour commencer, mais pas seulement, les associations, le quartier, les églises, que sais-je. On voit se défaire ces éléments de sociabilité qui étaient si importants dans la société française de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand il y a une difficulté, on dit il faut que l'école s'occupe de tout. Donc, elle s'occupe de réfléchir à l'environnement, elle s'occupe de lutter contre la plaque dentaire, elle s'occupe de réfléchir au problème des droits et des devoirs, elle essaie de résister à la pression des communautarismes, elle veut acquérir tous les outils de la modernité, elle court après l'informatique ou le numérique, elle se préoccupe de faire des programmes qui soient adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Bon, et elle est du coup sans cesse en mouvement. On lui demande tellement trop que toute l'année, il y a la semaine de l'injustice à l'école, la semaine du racisme à l'école, la semaine de la pauvreté à l'école. On voudrait qu'il y ait une semaine de l'école à l'école une fois de temps en temps.
Oui, ou du développement durable. Comme
oui,
le développement durable,
l'obsession.
Qui catalyse un petit peu tout.
Ah, comme... l'obsession absolue d'aujourd'hui.
L'un des autres thèmes, ensuite, on va rentrer dans les différentes entrées, précisément du dictionnaire, puisque c'est le principe même de ce type de rédaction, c'est qu'on a aussi le sentiment que cette malheureuse école, chargée à la fois de transmettre le passé et de préparer l'avenir, est pourtant bombardée par les exigences de l'actuel, de l'immédiat, du présent, toutes ces modes qui se succèdent. Comment faire pour qu'elle parvienne à résister à cette pression invraisemblable ?
Alors ça vient aussi des éléments premiers que nous avons signalés, c'est-à-dire de la pression nationale. Chaque ministre, et là, il arrive toujours avec précaution en disant « Mais non, il faut laisser les professeurs travailler. » Et puis au bout de 3 mois, il est comme les autres, il veut faire sa refondation, son Gosplan. Mais vous avez raison de dire qu'il faudrait laisser à l'école un espace de paix et de liberté, que la pression est trop grande. Et que, alors moi j'avais parlé de sanctuarisation, tout le monde a trouvé le terme excessif, mais enfin c'est quand même ce que ça signifie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une clôture de l'école. Que lorsqu'on est à l'école, un autre temps s'organise, une autre hiérarchie, un autre rapport réel, un autre rapport au pouvoir même d'ailleurs. Que les familles ne doivent pas faire irruption là-dedans, ni les politiques, ni les grands événements du jour, et qu'il faudrait redonner du temps à l'espace scolaire. C'est d'ailleurs ce qui a fait la réussite de l'école, que sa capacité d'être rythmée avec les saisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Être et avoir, qui avait beaucoup marqué l'opinion.
Magnifique film.
Très beau film, qui montrait évidemment une école un peu d'autrefois, mais qui montrait très bien ça, à quel point l'école était liée aux saisons. Le film était rythmé par les saisons. L'école a d'abord été une école rurale, fondamentalement, en France. Et donc, retrouver ce rythme des temps, et séparer l'école des marottes, des lubies, des modes, des automatismes, de toutes ces manies modernes de bavasser, de discuter de tout ce qui se passe dans l'instant, alors que ce que doit faire l'école, c'est nous mettre à distance du préjugé, de l'opinion reçue et de la réaction immédiate. C'est apprendre à instruire, c'est pas apprendre des résultats. C'est apprendre des méthodes, et la première des méthodes, c'est de prendre du recul, prendre le temps de réfléchir à ce qui se présente devant nous avant d'en parler.
Vous utilisez le terme, bien évidemment, bien que je pense qu'il ne vous plaise pas, de communauté éducative. On a un petit peu du mal à en saisir les frontières désormais. La communauté éducative, ça s'arrête où aujourd'hui?
Ça ne s'arrête pas, tout le monde s'en mêle, tout le monde a son avis. Des multitudes de comités théodules, d'organisations périphériques... s'en mêle, l'école est dans son quartier, elle est dans sa ville, elle est dans ses familles, elle est dans les politiques de la ville, et donc elle est un peu partout. C'est peut-être inévitable, mais en tous les cas, ce n'est pas rassérénant pour des enseignants qui d'ailleurs s'en plaignent. Hein. D'autant que l'une des ruptures les plus visibles et les plus importantes qui est arrivée à l'école de la nation, c'est la fin du consensus famille-école. Jusqu'en gros, dans les années 1950, 1960, on dira jusqu'en 68, puisque c'est une date un peu de rupture connue, un enfant, de quelque milieu qu'il fût, apprenait à peu près la même chose que ses parents. Alors, peut-être plus riche, plus évolué, mais enfin, il y avait des connaissances, notamment à l'école primaire. Les familles et l'école faisaient consensus autour de ce qui était donné à savoir. Le roman national, quel est du baptême de Clovis à Napoléon, ou au général de Gaulle, en passant par Jeanne d'Arc et Saint-Louis sous son chêne, que sais-je, un roman national, commencé chez les Gaulois, sujet d'actualité, dont je parle d'ailleurs, les départements et les fleuves, la géographie française, l'Empire français, ou son influence en tous les cas, puisque les colonies commençaient à disparaître, son influence dans le monde. On apprenait la même chose. Mon père, qui était né en 1900, ça lui paraissait absolument saugrenu que je puisse ignorer une sous-préfecture ou les affluents de la Loire. Bon, c'était... Et donc, l'école et la famille se mettaient d'accord sur ce qui était donné à savoir. Et puis après, ce consensus a cessé. Non seulement parce qu'on a appris des choses diverses, on a changé les programmes, on s'est mis à s'intéresser à toutes sortes de savoirs, on a créé même des sciences ou des procédés scientifiques ou cognitifs qui empêchaient les familles de comprendre de quoi il était question. Souvenez-vous de la fameuse épisode des maths modernes, ou du sabir invraisemblable dans lequel sont écrits les programmes aujourd'hui, qui est un jargon que personne n'utiliserait nulle part, qui est une langue inconnue chez quelqu'un d'autre que chez les auteurs de programmes. Bon. Et donc il y a eu une séparation, d'une part, et d'autre part, on a vu les familles se mettre à discuter l'autorité de l'école. Autrefois, quand un enfant faisait une bêtise et qu'il avouait à ses parents, il avait une deuxième punition. Là, on voit des parents débouler dans l'école et chercher querelle au professeur. Je crois que ça, c'est un élément assez marquant de rupture, perceptible beaucoup à l'école primaire, un peu aussi au collège, mais beaucoup à l'école primaire, et qui ajoute à l'isolement, évidemment, des enseignants.
Non, c'est pas moins que... Dans ce tableau où chacun veut tirer l'école à U et à DIA, il reste quelques points d'accord et de consensus étonnants, comme par exemple, et de l'ordre du symbole, comme par exemple celui dont fait l'objet le baccalauréat.
Oui. Ensuite, une vache sacrée. Hein. Le baccalauréat, on sait exactement qui aura son bac et qui ne l'aura pas. d'ailleurs tout le monde l'aura, plus ou moins, si ce n'est la première année, du moins en deux ans, avec des hiérarchies plus ou moins grandes, selon les mentions, selon les sections, les disciplines, les filières choisies. Et donc le baccalauréat reste une institution. Beaucoup d'universitaires, à commencer par Jean-Robert Pitt, le président de l'Académie, disent que tout ça n'a plus de sens et qu'il faut,
pas le dire.
Et qu'il faut arrêter tout ce truc, et que ça ne sert à rien de lever des armées de correcteurs, de se ruiner en programme, en émotion. Bon. Mais vous ne toucherez pas au baccalauréat parce que voilà, ça fait partie des institutions. C'est comme les symboles de la République, le drapeau ou l'arc de triomphe. C'est ainsi. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que derrière cette apparence de distribution du baccalauréat à tout le monde, subsistent évidemment toutes les inégalités. Et ce n'est pas parce qu'on aura son baccalauréat que son destin sera tracé. Ça dépend de lequel on aura, d'abord. Entre un baccalauréat professionnel et un bac S, il y a de grandes nuances. Ça dépend même où on l'aura obtenu. Si vous l'obtenez dans un lycée...
Ça, c'est plus étonnant.
Mais oui, parce que si vous l'obtenez dans un lycée de centre-ville, de Paris, par exemple, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà été préparé à faire des dossiers pour des classes préparatoires, etc., ce qui est peut-être moins sûr si vous êtes dans un lycée d'une province ou d'un chef-lieu de canton. Hein, bon. Donc, des inégalités majeures. Et puis surtout, c'est ce qui est ailleurs, c'est ce qui est autour, c'est la famille, le milieu, la passion scolaire, l'ambition, qui vont jouer un rôle après le baccalauréat. Et du coup, on va débouler dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les universités, dans les amphis, des tas de gens qui sont bacheliers, mais qui, au fond, ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et qui, surtout, ne sont pas préparés à affronter l'enseignement supérieur.
Le problème du baccalauréat, c'est pas plutôt alors qu'il laisse passer, enfin que tout le monde l'a,
ben oui.
Plutôt que lui-même.
Oui, oui, c'est vrai. C'est que on continue à appeler bac et examen terminal un rite de passage. Voilà.
Un des derniers qui subsiste.
Un dernier qui subsiste. Voilà. C'est vrai aussi pour le brevet qui reste et qui on met des mentions, mais enfin c'est très difficile de pas avoir le brevet. C'est la première épreuve qu'on fait passer aux jeunes gens et jeunes filles, bon, c'est pour leur montrer qu'il y a des étapes, des rites pour grandir.
À travers les différentes entrées de votre dictionnaire, on constate et on voit à quel point un grand nombre de débats, mais aussi de nostalgie ou de récrimination portent sur la notion même, on en parlait déjà avec ce baccalauréat, la notion même de notation. Et même d'un point de vue international, la France, malgré le fait que les notations soient, semble-t-il, moins sévères et rigoureuses qu'auparavant, fait figure quand même de bastion de résistance en voulant maintenir cette notation. Où en est-on de ces débats aujourd'hui? Et pourquoi cette fameuse notation serait si mauvaise?
Alors, les notations, il y a deux choses dans la question que vous posez. La manière dont nous notons en France, et ensuite la manière dont les résultats des petits Français sont évalués comparativement à d'autres pays. Voyons les deux aspects. Le système français, hérité là encore une fois de l'école de Jules Ferry, fait que la notation est une source de soustraction par rapport à une copie idéale que personne n'a jamais vue. Voilà. Le résultat parfait aurait 20.
C'est platonicien, quoi.
C'est une espèce d'idée. Hein, une idée, au sens platonicien. La copie idéale aurait 20. Combien j'ai en moins par rapport à cette copie idéale supposée? Alors, ça va dans les sciences exactes, quand vous faites des exercices de mathématiques ou quand vous devez définir des règles de grammaire, bon, ce sont des sciences exactes, en gros, il y a 20 réponses, il y a des fois, c'est des justes, donc on peut noter. C'est plus compliqué quand vous êtes devant la dissertation philosophique, dans un exposé, dans un oral, dans des travaux pratiques encadrés. Et donc, la notation, si obsédante en France, est un peu négative, au fond. D'autant que les professeurs continuent à mettre des 11,5 moins ou des 9,45 plus à des devoirs. Je le vois encore sous mes yeux avec mon fils qui est au lycée. Les systèmes de notation restent très sévères et très vieillots, au fond. Alors, bon, après tout, tant pis. Ça surprend toujours les étrangers. Car quand vous allez dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou en Angleterre, au contraire, ce qui est noté, c'est ce qui va. On a une notation positive, encourageante. On essaie de voir ce qu'il y a de bien dans ce qu'on a fait. Donc, une sorte de positivité de l'appréciation et d'évaluation de l'élève. Alors, tout ceci ne serait pas très grave. Après tout, chacun ses systèmes. C'est plus embêtant lorsque, après, on prend la totalité des résultats obtenus par les élèves français et qu'on la compare à la totalité des résultats obtenus par des élèves d'autres pays. Et il y a plusieurs dispositifs qui s'y prêtent. Le plus connu du grand public désormais, c'est PISA, qui compare les compétences en langue native et en mathématiques des élèves qui ont aux alentours de 15 ans, enfin qui ont 16 ans. Et là, on constate que les Français perdent des points très régulièrement, notamment dans des disciplines où ils étaient naguère plutôt brillants, en mathématiques en particulier. De même, il y a un dispositif qui s'appelle PIRLS, qui compare PIRLS, c'est un acronyme anglais, et c'est un dispositif qui étudie les compétences en langue et en grammaire des élèves qui rentrent en 6e, ils en ont 11 ans. Et là aussi, nous sommes dans les choux, hein, ben, par rapport à beaucoup. Nous ne cessons de perdre des places. En gros, sur 40, nous sommes dans les 5 derniers. Nous frôlons les 5 derniers. Et donc, non seulement notre système de notation est sans doute vieillot et sévère, mais par ailleurs, il ne produit pas une évaluation qui permette de faire progresser nos élèves. Donc, c'est vrai que l'école est un peu en crise de ce point de vue-là. Elle est en crise, non pas tellement parce qu'elle ne travaille pas, mais parce qu'elle n'obtient pas les effets qu'elle souhaiterait. Nous avons en France, plus que dans tous les autres pays du monde, une disparité incroyable entre les très bons et les très mauvais. Nous conservons une élite excellente, des élèves très brillants, presque trop, qui travaillent presque trop. Les futurs élèves de Ken Matsup ou de que sais-je, ou des grandes écoles préparatoires, ils sont brillantissimes. Nous avons chacun des élèves qui ont plus de 20 de moyenne au baccalauréat, avec les systèmes d'options qui ont 21, 22. Et puis nous avons des élèves atrocement faibles, complètement largués. Et l'écart est plus grand que dans tous les pays du monde comparables.
Et vous pensez que la cause se trouve au sein de l'école ou ailleurs dans la société ?
Poser la bonne question, c'est évidemment, l'école n'y peut rien. On demande à l'école de tout régler, je dis toujours, on demande à l'école de vider la cuvette alors que personne ne sait fermer le robinet, n'est-ce pas ? Bon. Et donc, de fait, les problèmes qui sont évoqués, disparité sociale, déterminisme du milieu, poids du quartier, différence selon les origines familiales ou ethniques, violence à l'école, critique de l'autorité, disparition de l'écrit, fin de la ponctualité. Tous ces sujets-là
convergent.
Oui, et ils ne viennent pas de l'école. La critique de l'autorité, elle se passe plus lorsque des jeunes de banlieue balancent des cocktails Molotov sur des voitures que dans l'école. La critique de la disparité sociale, elle se manifeste dans le quartier avant de se manifester dans l'école. Le poids de la communauté religieuse, elle se manifeste dans la société tout entière avant de se manifester dans l'école, etc. Et donc tous les problèmes à l'école ne sont pas des problèmes de l'école. Et les enseignants qui font leur travail avec beaucoup de mérite. Moi, je dis toujours du bien des enseignants, pas par démagogie, parce que je le pense vraiment, ils font un métier très difficile. Ils sont confrontés à des problèmes dont ils ne détiennent pas la solution, en fait. Ils peuvent l'arranger, ils peuvent faire en sorte que ça aille mieux, mais une fois que l'élève est dans la rue, il est rendu à lui-même, n'est-ce pas ? J'ai vu... Dans ma longue carrière, j'ai fait tellement de visites d'établissements dans divers moments de ma carrière. J'en ai vu des centaines ou des milliers. J'étais très frappé par ça, par un peu le désespoir de certains professeurs face à la déshérence d'élèves ou de jeunes, souvent d'ailleurs, qui étaient déjà gagnés par des symptômes ou des malaises qui émanaient de leur milieu ou de leur quartier, et contre quoi l'école ne pouvait rien.
Non, c'est pas le moins que face à cette crise, il est finalement naturel que l'école continue à réfléchir sans cesse à résoudre ces problèmes-là.
Oui. Elle ne le fait pas si mal, d'ailleurs. Elle ne le fait pas si mal. On oublie toujours de le dire. Quand même, on scolarise quoi, 15 millions d'élèves, en gros, hein. Bon gré, mal gré, ils sont tous à l'école, ils reçoivent tous une instruction, ils sont tous formés, beaucoup attendent de l'école une promotion qu'ils obtiennent. Donc, en tous les cas, nous avons réussi la massification. A-t-on réussi la démocratisation ? Ça, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on a réussi vraiment à lutter contre les disparités d'origine sociale ? Je n'en suis pas complètement certain, mais nous accueillons tout le monde. Et on en finit par oublier que c'est quand même pas une si universel que ça. Hein, que tous les enfants gratuitement soient accueillis et formés. Bon. Donc l'école quand même globalement rempli sa mission.
On a un peu le sentiment que les attentes sont, à son égard sont aussi parfaitement contradictoires. Ça qui est terrible, c'est qu'à la limite, on donnerait une feuille de route bien claire en disant « ce qu'on attend de vous, c'est ça ». Ensuite, eh bien, on pourrait faire une notation, c'est réussi ou pas. Mais lorsqu'on demande à l'école, on le pressent en feuilletant votre ouvrage, on demande à la fois de la cohésion nationale, une culture commune et l'émancipation individuelle. Des fondamentaux et des savoirs communs, le retour à un roman national, mais en même temps la libre expression de chacun pour donner son opinion sur tel ou tel sujet. Il y a de quoi devenir fou. Moi, je serai enseignant face à des demandes comme celle-là. Je crois que j'en perdrai la raison.
Ouais. Vous voyez, nous tournons toujours autour du même sujet que vous aviez très bien identifié dès le départ. C'est en effet l'injonction contradictoire, l'injonction paradoxale. L'école doit à la fois assurer le maintien et en même temps, il faut qu'elle forme des individus adaptés au monde de demain. Elle est dans cette grande difficulté. Je dirais, au fond, les deux arrivent à peu près à cohabiter. Il reste de l'injonction verticale, une sorte de descente jusque vers les classes de ce qui est considéré comme étant la mission de la nation. Ça reste très fort. Ça remonte à nos gènes, si je puis dire. Vous savez, on disait toujours que Jules Ferry, un mardi à 15h30, dans son bureau rue de Grenelle, sortait sa montre à oignon et disait « Il est mardi, nous sommes mardi, il est 15h30, tous les enfants de 9e sont en train de faire une dictée, c'est l'heure de la dictée partout ». Sur les semailles, le labour ou que sais-je, puisque c'était toujours sur des sujets agricoles. Et il était très fier de dire que tout le monde faisait la même chose au même moment. Donc nous sommes marqués par cette injonction verticale qui reste très forte. Et les ministres continuent à penser que c'est à eux de faire une impulsion sur les programmes. On l'a vu récemment encore sur des programmes fort discutables d'ailleurs du collège que proposait la ministre actuelle. En tous les cas, l'injonction. Et puis en même temps, on dit sans cesse, oui, il y a des injonctions, mais il faut l'autonomie des établissements, il faut l'autonomie des équipes pédagogiques, il faut que vous adaptiez au terrain, il faut que vous soyez innovant, inventif, débrouillez-vous, faites comme vous l'entendez. Et c'est par là que vous répondrez le mieux aux besoins si divers, si diversifiés du terrain scolaire. Les deux injonctions cohabitent, mais je pense que c'est un peu inévitable. Vous pouvez pas être, si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas dire, écoutez, je vous donne les moyens de votre action et faites ce que vous voulez. On pourrait. Au fond, c'est ce que font les charter schools, par exemple, dans le système anglo-saxon, ou aux États-Unis, dans les quartiers difficiles. C'est ce qu'on appelle charter schools. En gros, on vous dit, voilà, comme vous avez l'élève, on vous donne temps par élève, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, puis vous nous direz à la fin ce que vous avez produit. On ne peut pas quand même faire ça en France. Et en même temps, on ne peut pas non plus considérer que c'est toute la parole de la vérité pédagogique, tout ce qui est donné à savoir doit être défini depuis Paris. Donc il y a les deux systèmes cohabitent et à mon avis ils doivent cohabiter. C'est à peu près inévitable. Il faut que l'État fixe en gros les cadres, les ambitions, les programmes et les résultats attendus. Et puis ensuite les équipes pédagogiques se débrouillent, les communautés éducatives se débrouillent pour y arriver.
Est-ce qu'à l'égard de l'école, il n'y a pas aussi une forme de masochisme? Est-ce que ce n'est pas un terrain où le masochisme national et la propension tantôt à se surévaluer, tantôt à se mettre plus bas que terre, se déploie de façon complètement délirante? Vous consacrez notamment une ouverture au scandinavisme et à cette idée, à mon sens, un petit peu irréaliste, et, voire dingue, que les solutions étrangères ou expérimentées ailleurs pourraient être transposées telles quelles, alors qu'on vous l'avait dit en introduction, l'école fait partie de notre identité nationale.
Parce que nous sous-estimons le poids du social, nous l'avons dit. J'ai dit tout à l'heure, les problèmes à l'école ne sont pas des problèmes de l'école. Alors, tous les ministres font le pèlerinage en Finlande ou en Suède pour aller voir comment ça se passe, sauf qu'en Finlande, d'abord, ce n'est pas un pays de 65 millions d'habitants, c'est un pays de quelques millions d'habitants. C'est un pays où le taux de divorce est pratiquement nul, où les familles sont des familles protestantes, où tous les dimanches on va ensemble assister au culte, où la maman ne travaille pas, dans l'immense majorité des cas, elle est à la maison avec ses 3-4 enfants, où le président de la République est aussi le chef de l'Église protestante, où le seul syndicat est un syndicat qui rappelle plus le MEDEF que le nouveau parti anticapitaliste. Quand vous allez être reçu dans le syndicat des enseignants de Finlande, vous êtes reçu dans une espèce de immeuble très bourgeois, avec des tableaux représentant les divers présidents à travers l'histoire, vous croyez dans la banque Rothschild. Donc, on compare. En plus, en Finlande, il fait nuit à 4 heures, tout le monde est à la maison, il y a une vie communautaire, une vie familiale considérable. Donc, on va tôt à l'école, on y déjeune. Que voulez-vous mettre ce modèle-là dans un quartier difficile de la banlieue parisienne? Tout ça n'a évidemment aucun sens. Ce n'est pas l'école qui est différente, c'est la société tout entière. Bon. Et donc, cette fiction d'une école idéale qui serait quelque part et qui serait transposable ailleurs est au sens étymologique une utopie, c'est un non-lieu. Le topos n'existe que là où ça se passe. De même qu'on cite sans arrêt l'exemple des résultats coréens ou japonais. Mais il n'y a pas une famille française qui supporterait que son fils ou sa fille soit élevé à la coréenne. D'ailleurs, taper matin et soir, frapper physiquement, par des systèmes de répétition automatique, ils commencent très tôt les cours, ils arrêtent à 4 heures, ensuite ils vont suivre des répétiteurs qui sont des espèces de précepteurs à l'ancienne qui font des pressions physiques sur les gens qui ne dorment pas. Enfin, alors évidemment, ils sont tous premiers à la fin. Mais qui voudrait ça? Quel est le modèle de société scolaire qu'on propose? Donc, en effet, cette fascination pour l'autre à l'école n'a pas beaucoup de sens si on oublie que l'école est infusée dans le social. Elle est un élément du social. Elle est un reflet parfait de la sociologie d'un pays.
Et la solution ne peut-elle pas se trouver dans notre histoire scolaire? Vous donnez un certain nombre de portraits. Au centre figure bien évidemment Jules Ferry. Écoutez, en relisant cette entrée, je me suis dit que finalement tout ça était assez moderne, contemporain.
C'est bien mon avis.
Avec beaucoup de solutions d'avenir.
Bon, c'est bien mon avis. Moi, j'ai une grande admiration pour les fondateurs de la République et de l'école républicaine. Et même avant Jules Ferry, des gens comme Guizot, que sais-je, qui était un protestant. Tous ces auteurs qui ont... tous ces intellectuels, ces acteurs publics, qui ont petit à petit conçu l'idée qu'il fallait, par l'école, former une nation neuve et faire le sursaut d'une nation par le savoir. Et en gros, ce que disait Jules Ferry n'était pas si démodé que ça. En particulier, je le vois sur les problèmes pédagogiques, on a toujours l'impression que, quand on dit école de Jules Ferry, on voit apparaître aussitôt une multitude de clichés, tableau noir, craie... blouse grise, dictée, calcul mental, enfin d'autres sortes de trucs comme ça.
Vous savez, même quand vous dites blouse grise, dictée...
Ça ne vous choque pas, mais moi non plus, rassurez-moi.
Mais je pense même qu'une immense...
En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on voit défiler subitement une sorte de monde figé, jusqu'aux photos à la Douaneau où on voit ces petits élèves avec leurs petits bérets, leurs culottes courtes, leurs grosses chaussettes. On est figé là-dedans. Mais lorsqu'on lit de près ce que disaient tous ces gens-là, et en particulier lorsqu'on regarde l'idée qui se faisait de la pédagogie, c'est-à-dire de la relation d'un maître avec un élève, de la manière dont il faut enseigner, du respect qu'il faut avoir pour les personnes, des buts recherchés à travers toutes ces obligations scolaires, à travers toutes ces leçons, on a en effet une vision tout à fait moderne des choses. La lettre de Jules Ferry aux instituteurs, qui est si souvent citée, la lettre de 1885, qui est une lettre absolument admirable, où il explique en gros ce que c'est que le métier d'instituteur. Il dit nullement « apprenez-leur ceci ou apprenez-leur cela ». Il leur dit « soyez vous-même ce qu'ils pourraient désirer être ». Lorsque vous leur parlez, si vous imaginez que le père de l'un d'entre eux pourrait être choqué parce que vous allez dire « surtout ne le dites pas », il y a un respect infini de la conscience de l'élève, il y a un renvoi à la mission scolaire, la mission pédagogique, un renvoi à des valeurs plutôt qu'à des contenus, et il n'y a rien de toutes les caricatures que l'on prétend parfois aujourd'hui.
Au fil de votre ouvrage, d'ailleurs, ce qu'on ressent, c'est ce mélange d'exigence et de bienveillance.
Oui.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même un délitement des deux notions, et peut-être, contrairement à ce qu'on croit, davantage de la bienveillance que de l'exigence.
Oui, parce qu'on a remplacé la bienveillance par la démagogie. La bienveillance, elle est virile, elle n'est pas facile. D'ailleurs, vous savez, les élèves ne s'y trompent pas. De qui se souviennent-ils? Quand nous réfléchissons, chacun d'entre nous, aux professeurs qui nous ont marqués, est-ce que ce sont des profs laxistes, syndiqués, grévistes ou feignants ou démagos? Ou est-ce que ce sont des professeurs plutôt rigoureux, présents, sévères,
investis,
mais qui nous apportaient une bienveillance sévère? C'est bien ce que raconte merveilleusement d'ailleurs Camus dans sa lettre au premier homme, dans ce qu'il écrit à son instituteur, le jour où il a son prix Nobel. La première personne à qui il pense est à cet instituteur sévère, pas drôle du tout, qui l'a formé, qui l'a accueilli et qui était avec lui bienveillant, ce qui ne signifiait pas être copain-copain, démago. Et donc, vous avez raison, la sévérité et la bienveillance, vous avez raison.
Est-ce que vous me permettez de lire un texte que vous faites figurer dans votre ouvrage et qui est la façon dont, fin 19e, on présente à l'enfant le fameux cahier normé que chaque enfant se faisait remettre à l'école à l'époque. Enfant, en exclamation. Enfant, ce cahier vous est remis pour être le compagnon ou le témoin de vos études durant le temps que vous passerez à l'école. Tous les mois environ, vous y remplirez quelques pages seulement. Vous y écrirez le devoir que l'on vous aura donné à faire. Ce devoir, vous le ferez de votre mieux, en classe, sans vous faire aider de personne. Et vous continuerez ainsi jusqu'à votre sortie de l'école, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 13 ans, ou jusqu'à ce que vous ayez obtenu le certificat d'études. Ces devoirs mensuels, ainsi réunis, ne formeront ensemble qu'un bien petit volume. Cependant, ils sont en quelque sorte le résumé de toute votre enfance, l'histoire sommaire de vos 6 ou 7 années d'études. Vous serez heureux d'emporter le souvenir de votre école le jour où vous en sortirez. Vous garderez soigneusement ce modeste recueil qui témoignera, devant vous-même et devant tous, de ce que vous avez été dans votre jeune âge. Enfant, songez encore à ceci. On ne travaille pas pour soi seul dans ce monde, on travaille aussi pour les autres. Les petits-enfants eux-mêmes, sans y penser, travaillent pour leur pays, car les bons écoliers feront les bons citoyens. Si vous profitez sérieusement de tous les moyens d'instruction que la République prend soin d'offrir à tous ses enfants, vous pourrez rendre un jour à la patrie ce que la patrie fait aujourd'hui pour vous.
C'est magnifique, non ?
C'est d'une part, c'est magnifique, mais quelle considération des enfants !
Bien sûr, comment parler de ces jeunes gens ? Mais je suis content que vous le disiez parce que j'ai souvent parlé de ça, moi aussi. Je trouve qu'il y avait une sorte de vraie bonté, enfin, une véritable idée de ce qu'on attend d'un enfant et surtout un refus de le considérer comme un réceptacle dont il faudra vite se débarrasser, se le peut refier de classe en classe, quoi. En fait, c'est ça. Une partie pour laquelle on ne fait plus redoubler, c'est que bon, allez, qui s'en aille, qui passe là-dessus. Hein. Il n'y avait pas ça du tout dans cette école-là. Et il y a une grande considération pour les personnes.
Une volonté de faire grandir.
Oui, et puis alors toujours cette association à la fin entre ce que vous êtes comme élève et ce que vous êtes comme citoyen. Vous êtes des petits citoyens. Alors évidemment, tout s'inscrit évidemment, après la débâcle, dans l'obsession de conquérir l'Alsace et la Lorraine. On est très étonné de ce qu'on lit lorsqu'on lit les livres scolaires de l'époque, qui sont très, très, très patriotes, qui changeront d'ailleurs. Les éditions changent, après ça s'atténue un peu. Ça s'inscrit dans un temps, certes. Mais enfin, fondamentalement, ça reste vrai.
Bon, bah, si on remplace le mot patrie par société, tout le monde signe de demain.
Oui, absolument.
C'est le mot patrie qui fait désuet.
Bien sûr, bien sûr.
Vous rendrez à la société ce que la société vous a apporté.
Oh non, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis content que vous le souligniez.
Pour conclure, où se trouvent les ressources pour affronter les défis futurs de l'école ?
Elles se trouvent dans la qualification des maîtres. Il faut que nous continuions à avoir des gens passionnés, courageux. Il faut donc mieux les payer, mieux les traiter, mieux les respecter, mieux les accompagner. Il faut que le prestige des enseignants reste fort. Il l'a été. L'image de l'instituteur a été une image extrêmement positive. On a vu ensuite beaucoup d'images négatives bombardées sur les éducateurs et les formateurs. On a on leur a fait beaucoup de tort. Donc il nous faut, je dirais, une formation et un respect à l'endroit des professeurs plus grands que ceux qui n'ont connu ces dernières années. Je crois que tout le monde en est d'accord. Et puis il faut, j'allais dire, leur fiche la paix. Il faut les laisser faire. Le plus possible. Ils savent comment agir, ils savent comment travailler, ils sentent la situation. J'ai dit, en fait, il n'y a pas de mauvais professeur, vraiment, parce que quand vous êtes dans la classe, vous n'êtes pas devant des boîtes de conserve, vous êtes devant des jeunes gens, des jeunes filles qui demandent, qui attendent de vous. Donc, bon gré, mal gré, vous tirez de vous-même le meilleur, parce que c'est une relation aussi personnelle. La réussite de l'école, ce n'est pas le ministre, les programmes, les commentateurs de toute nature et les syndicats. C'est ce miracle incroyable de cette petite cellule qu'on appelle la classe, où un adulte avec 25 jeunes arrive tous les jours à produire du savoir, du désir d'apprendre, du bonheur de connaître. Et ça marche quand même. Quand même, ça marche. Nous nous souvenons tous de ça. Vous-même, quand je vous parle, vous avez aussitôt en mémoire, vous vous souvenez d'une scène de cet ordre. Vous ne vous souvenez pas du nom du ministre de l'époque. Donc on voit bien que c'est ça le mystère de la classe. Et donc il faut, à tout prix, sauvegarder cet espace de liberté qu'est la classe, à condition évidemment que, auparavant, on est formé des personnes de qualité pour remplir cette mission.
C'est une très belle conclusion, mais je vais vous demander une dernière intervention, d'évoquer le souvenir de l'un de vos maîtres, l'un de vos professeurs, maître d'école ou professeur de collège ou de lycée, qui vous a marqué et pourquoi.
Je l'ai fait par deux fois dans mon livre. J'ai cité un instituteur que j'ai eu deux fois d'ailleurs en CE2 et en CM2. C'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est la dixième, la quatrième année et l'avant-dernière, et la dernière, qui s'appelait M. Zampa, Élisée Zampa, qui était un instituteur des Hautes-Alpes. Alors, l'image que j'en donne, costume gris, chemise blanche, cravate noire, commencé le lundi matin par la leçon de morale au tableau. Et cet homme a su me prendre, a su m'aider à être moins turbulent, à être moins concentré, m'a aidé. Et j'ai un très grand souvenir de lui, je le cite. Et l'autre a été un professeur, alors j'ai tout à fait différent, c'est professeur de lycée en seconde, arrive dans le lycée de Périgueux où j'étais, qui était vraiment le lycée de province. Hein, un jeune normalien, c'était peut-être son premier poste, agrégé d'être classique et qui déboule dans nos classes de seconde. Et qui rompt complètement avec tout ce que nous avions fait jusque-là, qui nous fait lire du latin dans le texte, qui évoque devant nous l'histoire grecque et l'histoire romaine, qui nous promène dans l'histoire, la littérature, enfin, qui nous ouvre les portes de la merveille, des merveilles que sont les œuvres littéraires, et qui a déterminé ma vocation. Je ne savais pas ce que je ferais, mais je me suis dit, je voudrais faire ça. Tout ce que j'ai pu apprendre avec ce monsieur qui s'appelait Jean-Noël Michaud, je me souviens encore de son nom, il était ensuite professeur d'université à Montpellier. Tout ce que cet homme nous a apporté, cet homme tout jeune, il devait avoir 25 ans, entre 25 et 30 ans, ce qu'il a apporté à ces générations-là, il nous a fait découvrir. Je sais encore par cœur des choses que j'ai apprises en seconde grâce à lui, des vers latins, des textes de poésie. Et tout simplement parce qu'il était lui-même indiscutablement compétent et admirable. Je crois que c'était son propre rayonnement qui créait notre propre ferveur, n'est-ce pas ? On voyait bien qu'il était encore habité, qu'il sortait juste de ses études. J'ai souvent pensé à ces deux formes de maître, parce qu'au fond, j'ai eu les deux. J'ai eu la rigueur incarnée à l'ancienne, et la joie de connaître d'un homme jeune et moderne. Et c'est entre ces deux formes-là que j'ai ensuite évolué. J'étais moi-même professeur pendant très longtemps. J'étais professeur de Cagne et j'ai terminé comme professeur de Cagne à Louis de Grand. C'était des élèves de très très grandes compétences, qui étaient souvent plus forts que nous, d'ailleurs, dans certaines disciplines, qui faisaient des graines de normaliens. Ils étaient tous normaliens. Je pensais à ces deux figures première, mes deux premiers hommes, comme dirait Camus, la rigueur absolue et la générosité acquise par la culture.
Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je propose à nos auditeurs, pour poursuivre cette évocation et cette réflexion sur l'école, d'une part, bien entendu, de se tourner vers le Dictionnaire amoureux de l'école de Xavier Darcos, édité aux éditions Plon, mais aussi, comme monsieur le ministre vient de le faire, de réfléchir, d'essayer de se souvenir à ces maîtres qui ont compté pour chacun d'entre nous. Il n'y aura probablement pas besoin de réfléchir longtemps. Leur image revient très très vite. Merci monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Thank you.